Mémoires complets et authentiques de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police générale, deuxième partie. Avertissement de l'éditeur du 14 décembre 1824. Jamais peut-être aucun ouvrage sur les événements contemporains n'a été attendu et désiré aussi impatiemment que cette seconde partie des mémoires posthumes de l'ex-ministre Fouché, duc d'Otrante. Au moment où parut le premier volume de ses mémoires, recueilli avec tant d'empressement et de curiosité, j'annonçais moi-même au public que la suite serait bientôt mise à jour. L'impatience fut d'autant plus vive que l'intérêt de cette seconde partie ne pouvait manquer de surpasser celui qu'offrait déjà la première, puisqu'elle traite d'une période plus difficile et plus épineuse sous le point de vue politique. Je ne soupçonnais pas alors que cette annonce pût réveiller les craintes trop susceptibles de certaines personnes sur ce complément des révélations du duc d'Otrante. Pouvais-je m'attendre qu'elle m'entraînerait comme éditeur dans un procès en action civile dont ni le public ni moi n'avons pu d'abord apprécier les vrais motifs? Ce procès m'est suscité par les héritiers d'Otrante. Ils n'ont pourtant point à venger la mémoire de leur père qui lui-même a pris soin de justifier sa conduite politique. Ils n'ont pas non plus à défendre leurs intérêts, dont aucun n'est compromis. Je ne puis donc attribuer qu'à des suggestions étrangères l'action judiciaire qu'ils m'intentent. Quant à moi, fort de la justice de ma cause, tranquille sous l'égide des lois protectrices de la propriété littéraire, je n'hésite donc pas à déposer sur le tribunal de mes juges ce complément de mon corps de délit imaginaire. La culpabilité de ces deux parties, s'il pouvait en exister quelques traces, serait d'ailleurs identique, et dans l'une comme dans l'autre, je suis certain de n'avoir blessé ni les lois, ni le gouvernement, ni les convenances individuelles. Voici ce qu'établira victorieusement dans son plaidoyer l'éloquent et habile avocat qui a bien voulu se charger de ma cause. Elle est remise aux soins de Monsieur Berryer fils. Je me présente donc avec confiance devant mes juges et je soumets à leur équité et à leur lumière l'ensemble de ses mémoires. Chapitre 1er. Je m'impose une tâche grande et forte en m'offrant de nouveau à toute la sévérité d'une investigation publique, mais c'est pour moi un devoir de chercher à détruire les préventions de l'esprit de parti et les impressions de la haine. Du reste, j'ai peu d'espoir que la voix de la raison puisse se faire entendre au milieu des clameurs de deux factions acharnées qui divisent le monde politique. N'importe, ce n'est pas pour le temps d'aujourd'hui que je raconte, c'est pour un temps plus calme. À présent, que ma destinée s'accomplisse. Eh, quelle destinée, grand Dieu ! Que me reste-t-il de tant de grandeur et d'un si énorme pouvoir, dont je n'abusais jamais que pour éviter le plus grand mot ? Ce que je prise le moins, ce que j'amassais pour d'autres me reste. À moi qui, par mes goûts simples, eusse pu me passer de richesse, à moi qui n'apportais dans les splendeurs que la réserve d'un sage et la sobriété d'un anachorète. Tour à tour puissant, redouté ou dans la disgrâce, je recherchais l'autorité, il est vrai, mais je détestais l'oppression. Que de services n'ai-je pas rendus, que de larmes n'ai-je pas séchées.
Osez le nier, vous tous, dont j'ai réussi à me concilier les suffrages, malgré de fâcheux antécédents. N'étais-je pas devenu votre protecteur, votre appui, contre vos propres ressentiments, contre les passions si impétueuses du chef de l'État? J'avoue que jamais police ne fut plus absolue que celle dont j'avais le sceptre, mais ne disiez-vous pas qu'il n'y eut jamais de plus protectrice sous un gouvernement militaire, de plus ennemie de la violence, qui pénétra par des moyens plus doux dans les secrets des familles et dont l'action moins sentie se laissa moins apercevoir? Ne disiez-vous pas alors que le duc d'Otrante était, sans aucun doute, le plus habile et le plus supportable des ministres de Napoléon? Vous tenez à présent un autre langage, par la seule raison que les temps sont changés. Vous jugez le passé par le présent. Je n'en juge pas ainsi. Je fais des fautes, je le confesse, mais ce que je fis de bien doit entrer en balance. Jeté dans le chaos des affaires, occupé à dénouer toutes sortes d'intrigues, je me complus à calmer les ressentiments, à éteindre les passions, à rapprocher les hommes. C'était avec une sorte de délice que je goûtais parfois au repos, au sein de mes affections privées, empoisonnées aussi à leur tour. Dans mes récentes disgrâces, dans mes hautes infortunes, puis-je oublier que, support et surveillant d'un empire immense, ma seule désapprobation le mit en péril, qu'il s'écroula dès que je ne le soutins plus de mes mains. Puis-je perdre de vue que si, par l'effet d'une grande réaction, d'un retour que j'avais pressenti, je ressaisis les éléments dispersés de tant de grandeur et de puissance, tout s'évanouit comme en songe. Et pourtant, on me regardait comme bien supérieur par ma longue expérience, peut-être aussi par ma sagacité, à tous ceux qui, pendant la catastrophe, laissèrent échapper le pouvoir. À présent que, désabusé de tout, je plane de très haut sur toutes les misères, sur tout le faux éclat des grandeurs, à présent que je ne combats plus que pour la justification de mes intentions politiques, je reconnais trop tard le vide des partis contraires qui se disputent les affaires de l'univers. Je le sens, je le vois, un moteur plus puissant les conduit et les règle au mépris de nos combinaisons les plus profondes. Pourtant, il n'est que trop vrai, elles sont incurables, les plaies de l'ambition. En dépit de toute ma raison, je me sens encore poursuivi, malgré moi, par les illusions du pouvoir, par les fantômes de la vanité. Je m'y sens attaché comme Ixion l'était à sa roue, un sentiment pénible et profond m'oppresse. Et qu'on dise que je ne me montre pas avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes erreurs, avec tous mes repentirs, voilà, je pense, une assez solide garantie de la sincérité de mes révélations. Je le devais, ce gage, à l'importance de cette seconde partie des mémoires de ma vie politique. Me voilà invariablement placé dans la rigoureuse obligation d'en retracer toutes les particularités et d'en dévoiler tous les mystères. Ce sera mon dernier effort. Toutefois, et je l'éprouvais dans ma narration première, je puiserai quelques adoucissements dans le charme des souvenirs et dans la saveur de quelques réminiscences. En préparant ces mémoires, une idée consolante ne m'abandonna jamais. Je ne descendrai peut-être pas tout entier au tombeau, me dis-je, au tombeau qui déjà s'en trouve aux confins de l'exil pour me recevoir. Je ne puis me le dissimuler. Si j'élude le dépérissement de l'esprit, je ne ressens que trop le dépérissement de mes forces. Que je me hâte donc, pressé par la parque, d'offrir, dans un sentiment de sincérité, le récit des événements renfermés entre ma disgrâce de 1810 et ma chute de 1815. Ce complément est la partie la plus grave, la plus épineuse de mes confessions politiques. Que d'incidents, que de grands intérêts, que de personnages, que de turpitudes se rattachent à cette dernière scène, à ce dernier acte d'un pouvoir fugitif. Mais rassurez-vous, amis et ennemis, ce n'est point ici la police qui dénonce, c'est l'histoire qui révèle. Si je prétends m'élever au-dessus des frivoles ménagements, je n'en suis pas moins décidé à me placer toujours aussi loin de la satire et du libelle que de la dissimulation et du mensonge. Je flétrirai ce qui doit être flétri, je respecterai ce qui est digne de respect. En un mot, je tiendrai la plume ferme, et pour qu'elle ne puisse s'égarer, j'aurai l'œil ouvert sur le synchronisme des événements publics. De ces préliminaires destinés à éveiller l'attention et à provoquer les souvenirs, je vais passer aux faits qui constatent, aux particularités qui dévoilent, aux traits qui caractérisent. Il en résultera, j'espère, un tableau que l'on nommera, si l'on veut, de l'histoire ou des matériaux pour l'écrire. À la fin de la première partie de ces mémoires se trouve mon point de départ actuel. Il est marqué par l'événement de ma disgrâce qui fit passer dans les mains de Savary le portefeuille de la haute police de l'État. Qu'on ne perde pas de vue que l'Empire était alors à l'apogée de sa puissance et que ses limites militaires ne connaissaient déjà plus de bornes. Possesseur de l'Allemagne, maître de l'Italie, dominateur absolu de la France, envahisseur des Espagnes, Napoléon était en outre l'allié des Césars et de l'autocrate du Nord. On était si ébloui de l'éclat de sa puissance qu'on ne songeait déjà plus au chancre de cette guerre espagnole qui, au midi, commençait à ronger les fondements de l'Empire. Partout ailleurs, Napoléon n'avait qu'à vouloir pour obtenir. Tout contrepoids moral avait disparu de son gouvernement. Tout plié. Ses employés, ses fonctionnaires, ses dignitaires n'offrait plus qu'une troupe d'adulateurs et de muets épiant ses moindres désirs. Enfin, il venait de frapper en moi le seul homme de son conseil qui eût osé modérer ses empiétements successifs. En moi, il venait d'écarter le ministre surveillant et zélé qui ne lui épargna jamais ni les avis utiles ni les représentations courageuses. Un décret impérial me nommait gouverneur général de Rome, mais je ne crus pas un seul instant qu'il entra dans la volonté de l'empereur que je fusse mis en exercice d'un si haut emploi. Cette nomination n'était qu'un voile honorable tissé par sa politique pour couvrir et mitiger aux yeux du public ma disgrâce dont ses familiers seuls avaient le secret. Je ne pouvais m'y méprendre. Le choix seul de mon successeur était un indice effrayant. Dans chaque salon, dans chaque famille, dans tout Paris enfin, on frémissait de voir la police générale de l'Empire confondue désormais avec la police militaire du chef de l'État et de plus livrée au dévouement fanatique d'un homme qui s'honorait d'être l'exécuteur des ordres occultes de son maître. Son nom seul excitait partout la défiance et une sorte de stupeur dont le sentiment était peut-être exagéré. Je ne voyais déjà plus qu'avec d'extrêmes précautions mes amis intimes, mes agents particuliers. J'eus bientôt la confirmation de tout ce que j'avais pressenti. Pendant plusieurs jours, l'appartement de ma femme ne désemplit pas de visites marquantes qu'on avait soin de masquer sous l'apparence de félicitations au sujet du décret impérial qui m'élevait au gouvernement général de Rome. Je reçus les épanchements d'une foule de hauts personnages qui, en m'exprimant leurs regrets, m'avouèrent que ma retraite emportait la désapprobation des hommes les plus recommandables dans toutes les opinions et dans tous les rangs de la société. « Nous ne savons même pas trop, me dirent-ils, si les regrets du faubourg Saint-Germain ne sont pas pour le moins aussi vifs que ceux qui éclatent chez cette foule de personnes notables à qui les intérêts de la Révolution tiennent à cœur. » De pareils témoignages vis-à-vis d'un ministre disgracié n'étaient ni suspects ni douteux. Par position et par convenance, il me fallut pendant plusieurs jours dévorer l'ennui de servir de mentor à Savary dans le début de son noviciat ministériel. On sent bien que je ne poussais pas la bonhomie jusqu'à l'initier dans les hauts mystères de la police politique. Je me gardais bien de lui en donner la clé qui pouvait un jour contribuer à notre salut commun. Je ne l'initiais pas davantage dans l'art assez difficile de coordonner le bulletin secret dont le ministre seul doit se réserver la pensée et souvent même la rédaction. Le triste savoir-faire de Savary dans ce genre m'était connu. Jadis, je m'étais procuré, sans qu'il s'en doutât, copie de ses bulletins de contre-police. Quelle turpitude ! À vrai dire, impatienté de ses perpétuelles interrogations et de sa lourde insuffisance, je m'amusais à lui conter des sornettes. En revanche, j'eus l'air de le mettre au fait des formes, des usages et des traditions du ministère. Je lui vantais surtout les vues profondes des trois conseillers d'État qui, sous sa direction, allaient travailler comme quatre à exploiter la police administrative en se partageant la France. Il en était tout ébahi. Je lui présentais et lui recommandais de tout cœur les principaux agents et employés que j'avais eus sous mes ordres. Il n'accueillit que le caissier, personnage rond, et le petit inquisiteur Desmarais, dont je m'étais méfié. Cet homme, doué d'un certain tact, s'était courbé vers le soleil levant par instinct. Ce fut, pour Savary, une vraie cheville ouvrière. Rien de risible comme de voir ce ministre soldatesque donner ses audiences, épelant la liste des solliciteurs confectionnés par les huissiers de la chambre avec les notes de Desmarais en regard. C'était le guide âne pour les accueils ou pour les refus, presque toujours accompagné de jurements ou d'invectives. Je n'avais pas manqué de lui dire que c'était pour avoir été trop bon que j'avais indisposé l'empereur et que, pour mieux veiller sur des jours si précieux, il devait se montrer récalcitrant. Bouffi d'une morgue insolente, il affecta dès les premiers jours d'imiter son maître dans ses fréquentes incartades, dans ses phrases coupées et incohérentes. Il n'apercevait d'utile dans toute la police que les rapports secrets, l'espionnage et la caisse. J'eus le bonheur de le contempler dans ses soubresauts et s'épanouissant le jour que je lui fis l'agréable supputation de tous les budgets qui venaient se perdre dans la caisse privée. Elle lui parut une nouvelle lampe merveilleuse. Je grillais d'être débarrassé de cette pédagogie ministérielle, mais d'un autre côté, je cherchais des prétextes afin de prolonger mon secours à Paris. J'y faisais ostensiblement les préparatifs de mon départ pour Rome, comme si je n'eusse pas douté un instant d'aller m'y installer. Toute ma maison fut montée sur le pied d'un gouverneur général, et jusqu'à mes équipages portèrent en grosses lettres l'inscription « Équipage du gouverneur général de Rome ». Instruit que toutes mes démarches étaient épiées, je mettais beaucoup de soin dans de petites choses. Enfin, ne recevant ni décision, ni instruction, je chargeais Berthier de demander à l'empereur mon audience de congé. J'en reçus pour toute réponse que l'empereur n'avait point encore assigné le jour de mon audience et qu'il serait convenable, à cause des caquetages publics, que j'allasse dans ma terre attendre les instructions qui me seraient adressées incessamment. Je me rendis à mon château de Ferrières, non sans me permettre la petite malice de faire insérer dans les journaux de Paris, par voie détournée, que je partais pour mon gouvernement. Dans mon dernier entretien avec Berthier, il ne m'avait pas été difficile de pénétrer les dispositions de l'empereur à mon égard. J'avais entrevu combien il était contrarié de voir l'opinion publique se prononcer contre mon renvoi et se déclarer contre mon successeur. On n'apercevait plus dans le ministère de la police qu'une gendarmerie et une prévôté. Tous ces indices me confirmèrent dans l'idée que je me déroberais difficilement aux conséquences d'une disgrâce réelle. En effet, à peine étais-je à Ferrières qu'un parent de ma femme, laissé à Paris aux aguets, arrive en toute hâte à minuit, m'apportant l'avis que le lendemain je serais arrêté ou gardé à vue et qu'on saisirait mes papiers. Quoique exagérée dans ces circonstances, l'information était positive. Elle me venait d'un homme attaché au cabinet de l'empereur et attiré dans mes intérêts depuis longtemps. Je me mis à l'instant même à la besogne, enfouissant dans une cache tous mes papiers importants. L'opération faite, j'attendis d'un air stoïque tout ce qui pourrait m'advenir. À 8 heures, J, mon émissaire de confiance, m'arrive à franc écrier, porteur d'un billet de Madame de V, en écriture contrefaite, m'annonçant de son côté que Savary vient d'informer l'empereur que j'ai emporté à Ferrières sa correspondance secrète et ses ordres confidentiels. Je vis d'un coup d'œil de qui Madame de V tenait son information. Elle confirmait le premier avis, mais il ne s'agissait plus que de papier. Quoique rassuré sur toute atteinte portée à la liberté de ma personne, je crus voir entrer le sbire en chef avec ses archers quand mes gens vinrent m'avertir qu'un équipage, accompagné d'hommes à cheval, pénétrait dans la cour de mon château. Mais Napoléon, retenu par une sorte de pudeur, m'avait épargné tout contact avec son ministre de la police. Je ne vis entrer que Berthier, suivi des conseillers d'État, Réal et Dubois. À leur embarras, je m'aperçus que je leur en imposais encore et que leur mission était conditionnelle. En effet, Berthier, prenant la parole, me dit d'un air contraint qu'il venait par ordre de l'empereur me demander sa correspondance, qu'il l'exigeait impérieusement et que, dans le cas d'un refus, il était enjoint au préfet de police Dubois, présent, de m'arrêter et de mettre les scellés sur mes papiers. Réal, prenant le ton persuasif et me parlant avec plus d'onction comme un ancien ami, me pressa presque les larmes aux yeux de déférer aux volontés de l'empereur. « Moi, lui dis-je, sans aucun trouble, résister aux ordres de l'empereur, y songez-vous, moi qui ai toujours servi l'empereur avec tant de zèle, quoiqu'il m'ait souvent blessé par d'injustes défiances, alors même que je le servais le mieux. Venez dans mon cabinet, venez partout, messieurs, je vais vous remettre toutes mes clés, je vais vous livrer moi-même tous mes papiers. Il est heureux pour moi que l'empereur me mette à une épreuve inattendue et dont il est impossible que je ne sorte avec avantage. L'examen rigoureux de tous mes papiers et de ma correspondance mettra l'empereur à portée de se convaincre de l'injustice des soupçons que la malveillance de mes ennemis a pu seule lui inspirer comme le plus dévoué de ses serviteurs et le plus fidèle de ses ministres. » Le calme et la fermeté que je mis à débiter cette courte harangue ayant fait de l'effet, je continuai en ces termes. Quant à la correspondance privée de l'empereur avec moi pendant l'exercice de mes fonctions, comme elle était de nature à rester à jamais secrète, je l'ai brûlée en partie en résignant mon portefeuille, ne voulant pas exposer des papiers d'une telle importance aux chances d'aucune investigation indiscrète. De reste, messieurs, à cela près, vous trouverez encore quelques-uns des papiers que réclame l'empereur. Ils sont, je crois, dans deux cartons fermés et étiquetés. Il vous sera facile de les reconnaître et de ne pas les confondre avec mes papiers personnels que je livre avec la même confiance à votre examen scrutateur. Encore une fois, je ne crains rien et n'ai rien à craindre d'une pareille épreuve. Les commissaires se confondirent en protestations et en excuses. Ils en vinrent à la visite des papiers, ou plutôt je la fis moi-même en présence de Dubois. Je dois rendre ici justice à Dubois, quoique mon ennemi personnel et plus particulièrement attaché à l'exécution des ordres de l'empereur, il se conduisit avec autant de réserve que de décence, soit qu'il eût déjà le pressentiment que sa disgrâce suivrait bientôt la mienne, soit qu'il jugea prudent de ne pas choquer un ministre qui, deux fois renversé, pouvait remonter sur le pinacle. Touché vraisemblablement de ma candeur, la commission impériale se contenta de quelques papiers insignifiants que je voulus bien lui remettre. Enfin, après les politesses d'usage, Berthier, Réal et Dubois remontèrent en voiture et reprirent la route de Paris. À la nuit close, sortant par la petite porte de mon parc, je montai dans le cabriolet de mon homme d'affaires et, accompagné d'un ami, je filai rapidement vers la capitale où je vins descendre incognito dans mon hôtel de la rue du Bac. Là, j'appris, 2 heures après, car tous mes fils étaient tendus, que l'empereur, sur le rapport de ce qui s'était passé à Ferrières, était entré dans une colère violente. Après avoir éclaté en menaces contre moi, il s'était écrié que j'avais joué ses commissaires, que c'était des imbéciles et que Berthier, en affaire d'État, n'était qu'une femme qui s'était laissée mystifier par l'homme le plus rusé de tout l'Empire. Le lendemain, à 9 heures du matin, toute réflexion faite, je cours à Saint-Cloud. Là, je me présente au grand maréchal du palais. « Me voilà, vous dis-je à Duroc, j'ai le plus grand intérêt de voir l'empereur sans retard et de lui prouver que je suis loin de mériter ses amères défiances et ses injustes soupçons. Dites-lui, je vous prie, que j'attends dans votre cabinet qu'il daigne m'accorder quelques minutes d'audience. »« J'y vais, répond Duroc, je suis fort aise que vous mettiez de l'eau dans votre vin. » Telles furent ses propres paroles. Elles cadraient avec l'idée que je désirais lui donner de ma démarche. Duroc, de retour, me prend la main, me conduit et me laisse dans le cabinet de l'empereur. À la vue, au maintien de Napoléon, je devine sa pensée. Lui, sans me laisser le temps de proférer une parole, me caresse, me flatte et va jusqu'à me témoigner une sorte de repentir de ses emportements à mon égard. Puis, avec un accent qui semblait dire qu'il m'offrait de lui-même un gage de réconciliation, il finit par me demander, par exiger sa correspondance. « Sire, lui dis-je d'un ton ferme, je l'ai brûlé. »« Ce n'est pas vrai, je la veux, » répondit-il avec contraction et colère. « Elle est en cendres. »« Retirez-vous, » mot prononcé avec un mouvement de tête et un regard foudroyant. « Mais si, sortez, je vous dis-je, » parole accentuée de manière à me dissuader de rester. Je tenais tout près à la main un mémoire fort court mais fort plein de choses, et en sortant, je le déposai sur une table, mouvement que j'accompagnais d'un salut respectueux. L'empereur, tout bouillant de colère, saisit le papier et le déchire. Duroc, que j'allais voir aussitôt, n'apercevant en moi ni trouble ni émotion, me croit rentré en grâce. « Ah, vous l'avez échappé belle, me dit-il, j'ai détourné avant-hier l'empereur de vous faire arrêter. » Vous lui avez épargné une grande folie, un acte pour le moins impolitique et qui eût servi de texte à la malignité. L'empereur eut par là jeté l'alarme parmi les hommes les plus dévoués aux intérêts de son gouvernement. Je vis à l'air de Duroc que telle était aussi son opinion, et lui prenant la main, je lui dis « Ne vous rebutez pas, Duroc, l'empereur a besoin de vos sages conseils. » Je sortis de Saint-Cloud, un peu rassuré par cette demi-confidence du grand maréchal, dont j'étais redevable à une méprise, et je rentrai tout réfléchissant à mon hôtel. J'allais repartir pour Ferrières, après avoir vaqué à quelques affaires urgentes, lorsqu'on m'annonça le prince de Neuchâtel. « L'empereur est furieux, me dit-il, jamais je ne l'ai vu s'y emporter. Il s'est mis dans la tête que vous nous aviez joué, que vous avez poussé la hardiesse jusqu'à lui soutenir en face que vous aviez brûlé ses lettres, et cela pour vous dispenser de les rendre. Il prétend que c'est un crime d'État punissable de vous obstiner à les garder. » Ce soupçon est encore le plus injurieux de tous, dit Jabertier. La correspondance de l'empereur serait au contraire ma seule garantie, et si je l'avais, je ne la livrerais pas. Berthier me conjure avec insistance de céder, et sur mon silence, il finit par des menaces au nom de l'empereur. « Allez, lui dis-je, rapportez-lui que je suis habitué depuis 25 ans à dormir la tête sur l'échafaud, que je connais les effets de sa puissance, mais que je ne les redoute pas. Dites-lui que s'il veut faire de moi un Strafford, il en est le maître. » Nous nous séparâmes, moi plus que jamais résolu de tenir ferme et de garder soigneusement les preuves irrécusables que tout ce qui s'était fait de violent et d'inique dans l'exercice de mes fonctions ministérielles m'avait été impérieusement prescrit par les ordres émanés du cabinet et revêtus du sein de l'empereur. Aussi n'était-ce pas les effets d'une disgrâce publique que je redoutais, mais bien les embûches tendues dans les ténèbres. Décidé par mes propres méditations, de même qu'à par les instances de mes amis et de tout ce que j'avais de plus cher, je me jetai dans une chaise de poste, n'emmenant avec moi que mon fils aîné, accompagné de son gouverneur. Puis je me dirigeai vers Lyon. Là je trouvai mon ancien secrétaire, Maillot-Chaud, commissaire général de police, qui m'était redevable de sa place. J'obtins de lui tous les papiers dont je pouvais avoir besoin, et je traversai rapidement une grande partie de la France. De là, passant avec la même rapidité en Italie, j'arrivai à Florence avec un plan fortement conçu qui devait me mettre à l'abri du ressentiment de l'empereur. Mais tel était mon état d'irritabilité et l'excès des fatigues dont m'avait accablé un voyage si rapide et si long qu'il me fallut donner 2 jours de repos avant d'être en état de pourvoir à ma sûreté. Ce n'était pas sans intention, et je m'en expliquerai tout à l'heure, que j'étais venu me réfugier sur cette terre classique, ménagée dans tous les temps par les dieux et les hommes. La belle et libre Toscane, tombée d'abord sous la domination des Médicis, puis sous le sceptre de la maison d'Autriche, prince qui la régit en père plutôt qu'en roi, se trouvait alors engloutie dans le gouffre de l'Empire français. Je glisse sur sa cession dérisoire faite par Napoléon à l'infant de Parme sous le titre de roi d'Étrurie, cession révoquée presque aussitôt conclue. La Toscane était réservée à d'autres destinées. Depuis 1807, Élisa, sœur de Napoléon, y régnait sous le titre de grande duchesse. Et c'était moi, ô vicissitudes, incohérences et bizarres, c'était moi qui venais me ranger sous la protection de cette même femme que je n'aimais pas, qui, fortifiant jadis la coterie Fontane et Mollet, avait concouru à ma première disgrâce. De cette femme, dont j'aurais à dire ici plus de bien que de mal pour être juste, car j'ai l'habitude de parler et d'écrire avec les souvenirs de l'époque, mais sans passion ni ressentiment. Telle doit être en effet la maxime de l'homme d'État. Le passé ne devrait jamais être à ses yeux que de l'histoire. Tout est renfermé dans le présent. Quand il est d'ailleurs question de femmes soumises à l'empire de passions fortes, tout est facile à expliquer. À ma rentrée au ministère, j'avais eu l'occasion de me concilier Élisa. J'avais successivement mis à l'abri 2 hommes qui lui tenaient essentiellement à cœur et qui, à très peu d'intervalle, étaient devenus nécessaires à ses penchants d'une très vive exigence. L'un, comme traitant, était poursuivi avec acharnement par l'empereur, l'autre, plus obscur, s'était abîmé dans une affaire criante. Ce ne fut pas sans peine que je finis par tout assoupir. En outre, j'avais, en 1805, décidé Napoléon à conférer à sa sœur la souveraineté de Lucques et de Piombino. Or, j'étais presque sûr de trouver le cœur d'Élisa encore ouvert à la reconnaissance. Je n'avais pas hésité de m'en assurer par moi-même le jour où, dans ma dernière audience de l'empereur, ma disgrâce serait aggravée. M'étant présenté chez la grande duchesse, alors à Paris, pour les fêtes du mariage, je lui avais demandé, sans m'ouvrir à elle entièrement sur les épines de ma position, des lettres pour son grand-duché, où je lui dis que j'allais passer pour me rendre à Rome. Élisa y mit une grâce infinie, me recommandant avec chaleur et me désignant même dans ses lettres par l'aimable épithète de l'ami commun. Ceci s'explique. J'avais en Toscane des amis que j'y avais fait giter avec Lucre et la grande duchesse leur donnait toute latitude pour me servir. Telle était la sûreté de leur caractère, que je pus sans inconvénient leur faire connaître tout ce que ma position avait de pénible. Les avis reçus presque en même temps de Paris et de ma famille, qui s'était arrêtée à Aix, n'offraient rien de rassurant. Au contraire, on me représentait l'empereur, aiguillonné par Savary et prêt à sévir contre ce qu'on appelait mon obstination, taxée d'imprudente et même d'insensée. Personne alors ne pouvait se faire à l'idée qu'un seul homme osât résister à la volonté de celui devant qui tout pliait, potentats et nations. « Voulez-vous, m'écrivait-on, être plus puissant que l'empereur ?» Ma tête se monta, j'eus peur à mon tour. Dans mes insomnies, dans mes rêves, je me croyais environné de sbires, et il me semblait que je voyais s'ouvrir devant moi, au sein de la patrie du Dante, les portes de son inexorable enfer. Le spectre de la tyrannie s'offrait à mon imagination troublée sous les traits plus effrayants qu'à l'époque même de la tyrannie plus sanglante de Robespierre qui m'avait désigné au bourreau. Ici, je redoutais moins l'échafaud que les oubliettes. Je ne savais que trop, hélas, à quel homme j'avais affaire. Ma tête s'échauffant de plus en plus, j'en reviens à ma première idée qui s'était présentée à mon esprit. Je prends la résolution, désespérée, de m'embarquer pour les États-Unis, refuge des amants malheureux de la liberté. Sûr de Dubois, directeur de la police du Grand-Duché, qui m'était redevable de sa place, je me fais remettre des passeports en blanc et je cours à Livourne où je frette un navire, disant partout que je vais voir Naples pour de là revenir à Rome. Je monte à bord, je mets la voile, décidé à passer le détroit et à cingler vers l'Atlantique. Mais, grand Dieu, à quel atroce supplice fut aussitôt en proie ma complexion frêle et irritable. Le mal de mer me déchirait la poitrine et me tordait les entrailles. Vaincu par les souffrances, je commençais à regretter de n'avoir eu aucun égard aux représentations de mes amis et de ma famille dont j'allais peut-être compromettre l'avenir. Pourtant, je luttais encore, je me roidis tant que je pus à l'idée de fléchir devant le dominateur, mais j'avais perdu connaissance et j'allais expirer quand on me remit à terre. Accablé par une si rude épreuve, je déclinai les offres d'un loyal capitaine de navire anglais qui ambitionnait de me transporter dans son île à bord d'un bâtiment commode et excellent voilier, me promettant des soins et même des antidotes contre le mal de mer. Il n'y eut pas moyen d'y souscrire, j'étais résolu de tout endurer plutôt que de me confier encore à un élément incompatible avec mon existence. Cette cruelle épreuve avait d'ailleurs changé mes idées. Je ne voyais plus les objets sous les mêmes points de vue. Insensiblement, j'admis la possibilité d'en venir à une espèce de transaction avec l'empereur dont le courroux me poursuivait jusque le rivage de la mer de Toscane. J'y errerai quelque temps encore afin de mûrir mon plan et d'attendre plus d'opportunités pour son exécution. Enfin, mes idées une fois fixées, mes batteries dressées, je revins à Florence. Là, j'écrivis à Elisa, toute disposée à me complaire. Je lui envoyai pour l'empereur une lettre où, sans adulation ni bassesse, j'avouais que je me repentais de lui avoir déplu, mais qu'ayant à redouter de tomber sans défense victime de la méchanceté de mes ennemis, j'avais cru pouvoir me refuser, peut-être à tort, de me dessaisir de papiers qui formaient ma seule garantie. Qu'en y réfléchissant et tout navré de m'être attiré son déplaisir, je m'étais rangé sous la protection d'une princesse qui, par les liens du sang et la bonté du cœur, était digne de le représenter en Toscane, que je lui remettais tous mes intérêts et que je suppliais Sa Majesté de m'accorder, sous les auspices de la Grande Duchesse, en échange des papiers dont j'étais décidé à me dessaisir pour complaire à sa volonté, un titre quelconque d'irresponsabilité pour toutes les mesures et tous les actes que j'avais pu faire exécuter par ses ordres pendant la durée de mes deux ministères. Qu'un tel gage, nécessaire à ma sûreté et à ma tranquillité, serait pour moi comme égide sacré qui me garantirait des atteintes de l'envie et des traits de la malveillance. Que j'avais déjà plus d'une raison de croire que, par égard de mon dévouement pour mes services, Sa Majesté daignerait m'ouvrir la voie qui restait à sa bonté et à sa justice en me permettant de me retirer à Aix, chef-lieu de ma sénatorie, et d'y résider jusqu'à nouvel ordre au sein de ma famille. Cette lettre envoyée par estafette à la Grande Duchesse eut un plein et entier effet. Élisa y mit du zèle, le retour du courrier m'annonça que le prince de Neuchâtel, vice-connétable, était chargé, par ordre exprès de l'empereur, de me délivrer un reçu motivé en échange de la correspondance et des ordres que m'avait adressé l'empereur dans l'exercice de mes fonctions et que je pouvais en toute assurance me retirer au chef-lieu de ma sénatorerie. Ainsi s'opéra, par l'intermédiaire de la grande-duchesse, non un rapprochement entre moi et l'empereur, mais une espèce de transaction que j'aurais regardée comme impraticable 3 semaines auparavant. J'en étais encore moins redevable aux besoins de mon cœur ou à une domination sincère qu'aux atteintes du mal de mer dont il ne m'avait pas été donné de pouvoir supporter les tourments.